Bienvenue dans le débat. En mathématiques, c'est simple, 1 plus 1 égale 2. Mais en politique, deux oui peuvent parfois s'annuler.
Pour donner un grand nom, oui.
Exactement. Imaginez, 60% des électeurs d'un pays veulent une réforme, sauf qu'ils se divisent. Disons que 30% votent pour une initiative citoyenne et 30% pour le contre-projet du gouvernement.
Et les 40% qui restent, voilà, ils votent contre tout pour maintenir le statu quo.
C'est ça. Mathématiquement, le statu quo l'emporte avec 40%, alors qu'une majorité de 60% désirait vraiment le changement. C'est le fameux et terrible paradoxe du vote divisé.
Et c'est précisément ce piège institutionnel dans lequel le Liechtenstein s'est retrouvé coincé, du moins jusqu'au 13 septembre 1987.
Ah, la fameuse date.
Oui, 62,9% des électeurs de ce micro-État adoptent alors le double oui. L'objectif, c'était vraiment de corriger cette anomalie arithmétique.
Donc la question centrale qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette mécanique a véritablement renforcé le pouvoir souverain des citoyens ou est-ce que ce n'est qu'un simple ajustement procédural au sein d'une monarchie très verrouillée?
C'est tout l'enjeu.
Pour moi, je dois dire que cette réforme incarne l'aboutissement de la démocratie directe. Elle donne une précision absolue à la volonté populaire.
Alors que, de mon côté, je suis convaincue que ce raffinement technique, il masque surtout la réalité du pouvoir suprême du prince.
Mais attendez, ce double Yelné, il a quand même sauvé l'intégrité même du scrutin. Au lieu d'avoir à sacrifier un texte face à un contre-projet, l'électeur liechtensteinois peut désormais rejeter les deux, en approuver un seul, ou même dire oui aux deux.
Oui, grâce à la question subsidiaire.
Voilà. Il indique sa préférence finale si les deux textes venaient à passer. C'est une règle silencieuse, mais d'une efficacité redoutable. Ça donne un pouvoir décisionnel clair et direct aux 40 000 habitants du pays qui, rappelons-le, s'expriment absolument sur tout. Le hasard des divisions ne confisque plus la décision.
C'est un outil de comptage brillant, je vous l'accorde volontiers. Mais il faut remettre ça dans le contexte politique global, vous voyez. Déjà, le Liechtenstein n'a rien inventé.
C'est vrai, ils ont regardé du côté suisse.
Exactement. Ils ont calqué la Suisse, à qui ils empruntent d'ailleurs la monnaie. Mais surtout, ce raffinement procédural, il semble bien dérisoire face à la véritable autorité. Souvenez-vous de 2003.
Ah, le fameux référendum!
Oui. Le prince Hans Adam II a carrément obtenu un droit de veto absolu. Et la faculté de dissoudre le gouvernement.
Et comment il a obtenu ça?
Par un coup de pression.
En menaçant purement et simplement de quitter le pays s'il n'obtenait pas gain de cause.
Face à un tel chantage constitutionnel, une question subsidiaire ne pèse vraiment pas lourd. Hein.
C'est vrai, la menace du veto existe, elle est là, sur le papier. Mais regardons comment ces institutions vivent en pratique. L'intensité démocratique prouve bien que la voix citoyenne n'est pas étouffée.
Vous trouvez?
Rien que sur l'année 2024, les citoyens ont voté sur des enjeux massifs. Hein. L'adhésion au Fonds monétaire international, le financement d'un nouvel hôpital, l'installation obligatoire de panneaux photovoltaïques.
Je comprends tout à fait votre point de vue, mais c'est comme accorder parfaitement un instrument de musique.
Même avec un prince puissant en guise de chef d'orchestre, cet outil de vote garantit que la mélodie populaire, elle ne sonne jamais faux dans l'isoloir.
Alors j'aborde la question différemment. Un instrument parfaitement accordé, franchement, ça ne sert absolument à rien si le souverain peut d'un seul veto déchirer la partition à la fin du concert.
Déchirer la partition, c'est peut-être un peu fort, non?
Pas tant que ça, hein. Le fait qu'il puisse annuler une élection ou dissoudre l'exécutif, ça neutralise l'intérêt même d'avoir sauvé les voix dans l'isoloir. C'est un équilibre complètement faussé à la base.
Sauf que le pays n'est pas paralysé, loin de là. Regardez la dynamique très récente. En février 2025, l'Union patriotique arrive en tête des élections.
Oui.
C'est un vrai processus compétitif. Hein. Et ça a conduit, dès le mois d'avril, à la nomination de Brigitte Haase, la première femme à diriger l'exécutif dans l'histoire du pays. C'est pas rien. Ce micro-État continue d'ajuster ses institutions, de faire des choix sociétaux majeurs, parce qu'il maintient cette habitude de soumettre les décisions aux citoyens.
Personne ne fait à la société liechtensteinoise évolue. Et je suis tout à fait prête à m'accorder avec vous sur l'élégance mathématique de la réforme de 1987.
Elle est indiscutable.
Permettre aux urnes de refléter cette nuance, c'est un défi que beaucoup de grandes démocraties n'ont toujours pas résolu. Hein. Mais seulement, face aux prérogatives princières d'une monarchie aussi unique, le poids de cette mécanique de vote reste marginal dans la véritable balance de la souveraineté.
Et c'est bien là toute la complexité de cet édifice. Ce mélange quotidien entre une souveraineté populaire extrêmement sollicitée et un pouvoir monarchique, on va dire très imposant.
Écrasant, oui.
Chacun jugera. Nous laissons le soin à nos auditeurs de forger leur propre opinion sur ce curieux équilibre. Qu'est-ce qui résonne le plus fort? L'instrument parfaitement accordé des citoyens ou la baguette du prince?
Le débat reste ouvert.
Exactement. Merci pour cet échange et à très bientôt.